Ce matin, le thème de mon message sera donc témoigner de sa foi. Témoigner de sa foi, ou j'aurais pu l'appeler évangélisation, mais témoigner de sa foi. Et ce qui était rigolo, donc, c'est que, je pense que c'était il y a 3 semaines, il y a eu cette sortie à Saint-Amand, et donc ces personnes qui sont allées ont été des témoins de Christ. Merci, il y avait une dizaine de personnes hein, ici, de plus, même 20 je crois. Hein. Bon, j'y étais pas, donc je suis un contre-exemple. Moi, pendant que vous étiez à Saint-Amand, honte à moi, j'étais dans mon canapé. Si c'est pas beau ça. Non, c'est pas beau du tout. Mais par contre, le Seigneur permet des connexions. Et pendant que les gens étaient à Saint-Amand, c'est véridique, hein, je me suis dit, tiens, je vais préparer mon futur message. Le Seigneur m'a mis à cœur ce message, un peu pour moi aussi en premier, et je me sens concerné aussi. Et il m'a dit, tiens, on va poser une question. Et j'ai créé ce petit questionnaire. Et je veux vous remercier parce que vous avez été plus de 50 à y répondre. Et on l'a fait au sein Betsalel, et je veux vous remercier parce que c'est aussi un encouragement. Ce questionnaire, c'était celui-ci. C'était une sorte de petit sondage, mon côté prof de maths. La première question à laquelle vous deviez répondre, c'est, selon vous, sommes-nous tous appelés à partager notre foi avec les non-croyants? Et ce qui est rigolo, c'est qu'à cette question-là, vous avez été 92%, quasiment la majorité, enfin même plus, la totalité, à dire « oui, nous sommes appelés à témoigner de notre foi avec les non-croyants ». Mais à la deuxième question, selon vous, êtes-vous à l'aise avec le fait de témoigner de votre foi? Par contre, à cette question-là, plus d'une personne sur deux, 55%, a dit « ouais, bof ». C'est-à-dire que nous savons tous, et nous avons tous conscience que nous sommes appelés à partager notre foi, mais en même temps, nous nous sentons parfois désarmés dès qu'il faut le faire. Nous ne sortons pas formés ou pas à l'aise avec ça. Et c'est une réalité. Et c'est ce qui a un peu motivé le message que je vais vous partager donc ce matin, témoigner de sa foi. Et je crois que Seigneur, à travers ça, désire rétablir quelques vérités dans nos cœurs ce matin. La première chose que nous verrons, c'est que nous avons tous notre place à avoir dans cette réalité. Nous avons tous notre place à prendre pour, dans la vision, impacter notre région. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a les maraudes, bien sûr, il y a l'évangélisation, mais il y a tant de choses qui peuvent être faites, chacun à notre échelle. Et le Seigneur désire donc faire en sorte que nous prenions tous une place là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il existe différents moyens, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et puis surtout, la dernière chose, c'est que c'est vrai que quand on lit Actes 1-8, on a l'impression, ça y est, on a le Saint-Esprit, naturellement, on est des témoins. C'est comme si c'était fluide. Mais non, je vous rassure, ça s'apprend. Et ça s'apprend au regard de ceux qui ont de l'expérience, parce qu'il y en a qui portent ça, c'est vrai, plus que d'autres à l'église. On va pas le dire, ils ont l'expérience et ils ont tellement de choses à nous apprendre, à tous. Mais ça s'apprend aussi au regard de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors la première chose, la première partie, si vous voulez bien, j'aime bien vous prendre à contre-pied. Parce que la dernière question du questionnaire, c'était, et selon vous, prioritairement, vous vous dirigeriez vers qui si vous deviez témoigner de votre foi? Il y avait 3 possibilités. C'était la famille, les amis et les proches, les collègues de travail, ceux que l'on connaît, ou les inconnus dans la rue. Et vous avez répondu majoritairement, déjà ma famille, puis les amis, collègues, et moins à l'aise, les gens que je ne connais pas. Et forcément, comme j'aime bien vous prendre à contre-pied, je vais commencer par une première partie, témoigner de notre foi pour impacter notre région auprès du monde extérieur, celui qui ne nous connaît pas. Et ça va aller un peu en lien avec, vous savez, l'image, c'était... Il y a 2 semaines, le pasteur à Bruxelles, de Bruxelles, c'était son prénom? C'était bien Stéphane, j'avais un doute. Et cette image, vous savez qu'il a eue, je trouvais ça génial. Je ne sais pas si ça vous a impacté à la fin du message. Il a pris des gens, on était en cercle, il a dit, c'est bien, vous êtes tournés vers vous, vous passez de mon temps, vous êtes unis, mais le Seigneur désire maintenant que vous retourniez et que vous tourniez vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus être unis, plus vivre des bons moments entre nous, mais être tournés vers l'extérieur. Et c'est cet état d'esprit-là, je vous propose de lire pour ça Acte 13, versets 2 à 12, et on verra ensemble après ce que l'on peut en ressortir. Donc Acte 13, versets 2 à 12. « Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Paul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent un mage, un faux prophète, c'était un Juif du nom de Bar-Jésus, qui vivait auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme avisé. Celui-ci fit venir Barnabé et Paul, car il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors, en face d'eux se dressa Elimas, le mage, car ainsi il se traduit son nom, qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, le fixa du regard et lui dit « Toi qui es plein de toutes sortes de faussetés, de méchancetés, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de dévier les chemins du Seigneur qui sont droits ?» Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle, tu ne verras plus le soleil jusqu'au moment fixé. Et aussitôt tombèrent sur lui brouillard et ténèbres. Il tournait en rond, cherchant une main pour le guider. Alors le proconsul, ayant vu tout ce qui s'était passé, devint croyant, car il était frappé par l'enseignement du Seigneur. Que retenir de cette histoire ? Ben, on va retenir en trois points, si vous le voulez bien. Le premier point, qui est important, je pense, et qui ressort bien de cette histoire, c'est que l'évangélisation de rue ne doit pas être une affaire de quelques personnes. Chacun à notre façon, nous devons faire en sorte qu'il s'agisse d'une vision partagée par toute l'Église. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on reprend le début de l'histoire au verset 2, on voit bien qu'ils étaient en train de vivre un culte comme nous vivons ce matin. Ils vivaient un culte. Et souvent, nous vivons un culte, nous sommes contents. Notre vision, c'est de venir à l'église, on se dit bonjour, on passe un bon moment, un bon temps de louange, si possible, un bon message, et merci. Mais on voit qu'ici, ils allaient plus loin encore. Ils étaient dans une vision, une dimension, une dynamique différente. Tous ensemble, d'un même cœur, ils avaient une même vision, c'était d'aller. D'aller. Et vous savez, quand on va, quand on veut envoyer, quand on veut se tourner vers l'extérieur, on retient souvent l'image de ceux qui vont sur le terrain. On dit c'est eux qui ont le rôle le plus important et on leur laisse toute la responsabilité. Mais nous avons aussi un rôle à jouer, un rôle à notre manière. Il y a ceux qui vont sur le terrain, mais il y a ceux qui sont autour. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui jeûnent, il y a ceux qui imposent les mains et ils ont un rôle tout aussi important que ceux qui vont sur le terrain. Et c'est en ce sens que je vous dis que dans l'évangélisation, puisqu'on parle bien ici d'évangélisation, nous avons tous notre rôle à prendre et notre place à prendre. Et ce matin, j'aurais envie de mettre concrètement, directement en pratique cela. Je ne peux pas juste vous dire ça et puis dire « bon, bah, c'est cool, c'est bien ». Non, j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse stopper le message peut-être pendant 2-3 minutes ici, qu'on puisse faire en sorte que ceux qui portent par les maraudes, par l'évangélisation, cette vision-là puisse se lever et que l'Église tous ensemble puisse prier, leur imposer les mains, parce que nous les envoyons et nous les soutenons et nous les remercions parce qu'ils prennent une charge importante dans la vision de l'Église. Ça vous va ? Eh bien, on fait ça. Si vous voulez bien vous lever, et puis on va... Enfin, les personnes qui portent ça, je sais qu'il y en a là-bas, je sais qu'ils n'aiment pas forcément se mettre en avant, mais ce matin, c'est vraiment l'idée, c'est vous, voilà, vous bénir. Amen ? Allez-y. Ah bon. N'ayez pas peur. On va vivre la réalité de ce que nous dit la parole. Alléluia. Amen. Amen. Et donc là, comme ça... Ben voilà, l'équipe maraude, l'équipe évangélisation. Hein. Voilà, comme ça on les voit. Et maintenant que vous les avez vus, on va tous se lever et on va prier pour eux. Amen. Et si vous êtes à côté d'eux, on va leur imposer les mains, parce qu'ici on imposait les mains. Tidev, est-ce que tu peux, sur Mitch et Nancy, on va leur imposer les mains et on va prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te remercions parce que, Seigneur, tu es présent. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu fais naître dans les cœurs, Seigneur, de plusieurs personnes ici, ce désir, Seigneur, d'aller au contact de l'extérieur, au contact de personnes qu'ils ne connaissent pas. Et gloire à Dieu parce que, Seigneur, ce qu'ils font, c'est pour ta gloire, c'est pour ton œuvre, c'est parce que tu nous appelles à vivre ça. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, dire « Waouh, c'est beau ce qu'ils font, Seigneur », mais nous voulons les soutenir. Et ce matin, Seigneur, nous imposons les mains et nous disons, Seigneur, nous les envoyons en ton nom, Seigneur. Et pas simplement nous les envoyons sans les soutenant, mais nous les soutenons aussi dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, c'est une mission qui est tellement importante, tellement forte, tellement difficile. Mais, Seigneur, tu es là et nous les soutenons aussi avec eux dans le nom précieux de Jésus. Je te remets, Seigneur, cette équipe qui va, Seigneur, et qui part, Seigneur, dans les rues, cette équipe qui va à leur rencontre de personnes pour les maraudes, pour l'évangélisation. Bénis-les. Gloire te soit rendue, Père éternel. Amen. 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 Voilà, merci. Merci. Et merci à vous, en tout cas, qui portez ça. C'est tellement important. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est tellement important. Le deuxième point à retenir, c'est que, et qu'on voit dans cette histoire, c'est que je crois qu'il y a une importance de communiquer et donc d'être ouvert et accessible vers l'extérieur. Cela doit faire partie de notre ADN d'église locale. C'est un peu l'image que je vous ai dit, partagée par Stéphane. Souvent, comme je vous l'ai dit avant, on est content, on passe des bons moments ensemble, ce midi on va manger ensemble. Voilà, on aime bien passer, mais il ne faut pas qu'on oublie et qu'on en fasse une priorité, c'est d'être ensemble. L'église du Seigneur est ouverte vers l'extérieur. Et il y a différents moyens de le faire. Bien sûr, il y a les maraudes, bien sûr, l'évangélisation, mais comme je vous l'ai dit, différents moyens. Et moi, être tourné comme ça et communiquer vers l'extérieur, c'est ce qu'on voit ici, que c'était la vision ici de cette église, en tout cas. À l'époque, c'était compliqué. S'ils voulaient tourner à l'extérieur, il fallait qu'ils sortent. Et en termes de logistique, on l'a vu ici, c'est pas facile. Il fallait qu'ils marchent, puis qu'ils prennent un bateau, puis un machin. Nous, aujourd'hui, on a tellement des choses qui sont simplifiées. Si on réfléchit bien, aujourd'hui, on a par exemple les réseaux sociaux. C'est une moyen aussi, un moyen qu'on peut utiliser et qu'on a à notre œuvre pour être tourné vers l'extérieur, le site internet, etc. Et moi, je me suis posé la question de cette semaine, justement, c'est rigolo, je vous partage ça. Je me suis dit, et si les réseaux sociaux avaient existé du temps de Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus aurait un compte Instagram? Oui? Bah, je me posais la question, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, est-ce que Jésus aurait eu? Alors, ça me regarde que moi, hein. Regarde que moi. Après réflexion, je me suis dit, je ne pense pas que Jésus aurait eu de compte Instagram. Parce que je pense, mais c'est mon point de vue, hein, Jean-Claude, peut-être, mais tu vas voir, après on discutera. Parce que je pense que quand on réfléchit, il n'était pas dans la démonstration. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'aurait pas eu besoin d'avoir de compte Instagram pour être présent sur Instagram. Parce que je peux vous dire qu'autour de vous, enfin autour de lui, tout le monde aurait eu son téléphone et aurait montré à l'extérieur. Donc il n'aurait même pas besoin de, pour être tourné vers l'extérieur, il n'aurait même pas besoin d'avoir un compte Instagram, on s'en serait occupé de lui. Par contre, je me suis posé la question, est-ce qu'à votre avis, les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive, s'il y avait eu Instagram, ils auraient eu un compte, par exemple. Par contre, bah moi je pense que oui, là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement de zèle, ils avaient tellement le désir que la parole de Dieu soit diffusée, que je suis sûr qu'ils auraient, ils étaient prêts à faire des milliers de kilomètres à pied et en bateau pour le faire, je suis sûr qu'ils auraient utilisé ces moyens-là, s'il fallait pour se tourner, etc. Enfin bon, ça c'est juste mon point de vue personnel, hein. Il n'y a rien de biblique là-dedans. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, quand je dis que ça fait partie de l'ADN, qu'il faut être ouvert par l'extérieur, par tous les moyens, il ne faut pas s'empêcher. Je ne sais pas si vous avez vu ce buzz qui a fait le chant « Comment ne pas te louer ?» Hein, on en a parlé beaucoup. Et alors ça a été repris beaucoup de monde, ça a beaucoup impacté le monde. C'était présent sur tous les réseaux, etc. Bon, ça a même un peu dévié, hein, parce qu'il y en a certains qui parodiaient. Ça a même été remixé, joué en boîte de nuit. Peut-être que ça va nous offusquer un petit peu de dire ça. Ça peut nous offusquer. Moi, je retiendrai juste une chose. C'est Philippiens 1:18. C'est Paul qui dit ça, hein, et qui dit peu importe que leurs intentions soient inavouables. Ou bonne, tant que le Christ est annoncé, je me réjouis. Et je pense que peu importe la manière que nous utilisons, tant que le Christ est annoncé, et si possible de la meilleure des manières, bien sûr, on peut être que réjoui. Voilà. Troisième point que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que, comme je disais dans ma prière, c'est pas simple de tourner vers l'extérieur. Parce que le monde est hostile. Le monde est hostile et on le voit dans cette histoire. Première chose, ils se débarquent, ils vont prêcher dans les synagogues. Et aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, ceux qui vont dans la rue, il y a toutes sortes de croyances. Il faut être confronté à ça et ce n'est pas simple. Deuxième chose qu'ils ont eu ici, ils ont eu des faux prophètes, bar Jésus. Et quand vous allez dans le monde, les gens sont nourris de fausses prophéties. De ce que les réseaux, c'est le cas de le dire, c'est l'aspect inverse, leur fournit comme information et qu'ils se gavent de ça. Quand vous allez dans la rue, vous tombez sur des personnes, comme ici dans cette histoire, qui ont des esprits mauvais, qui vont tout faire pour vous lutter. Donc c'est compliqué, le monde est hostile, mais on voit qu'ici, ce qui permet à Barnabé et à Paul de prendre le dessus, c'est parce qu'ils sont remplis de l'esprit. Ils sont guidés par l'amour. Et ce qui fait la différence, c'est quoi à la fin? C'est la parole de Dieu. Ils sont remplis et ils connaissent la parole de Dieu. Donc, c'est une invitation encore plus forte à être remplis de l'esprit, à être guidés par l'amour et à nous nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que ces choses-là, que ces armes-là qui nous permettront concrètement de toucher le monde extérieur, d'impacter notre région si nous nous confrontons à celui-ci. Donc c'est super important. Parce que le monde a soif. Et ici, on voit que c'était déjà à l'époque le cas. Le proconsul le dit. Venez, il fait appel à Barnabé. Il avait soif. Et je suis sûr que si le monde est hostile, vous devez aussi rencontrer un monde qui a soif. Et donc n'oublions pas cela. C'est pas parce qu'il est hostile, souvent on se dit le monde est hostile, c'est ce qui nous empêche aussi de dire on va sortir, j'ai un peu peur. Non, n'oublions pas qu'il a soif. La semaine passée, pour tout vous dire un peu un témoignage, j'ai eu la possibilité de rencontrer un chef d'entreprise. En fait, c'est quelqu'un qui a une grande boulangerie à Lille. Donc je l'ai rencontré, il est riche cet homme, ça sent, il a bien réussi sa vie. Et pourtant, quand j'ai discuté avec lui, je sentais qu'il était en recherche de quelque chose. Et ce quelque chose, c'était Dieu. Il l'a vite cerné puisqu'on en a discuté. C'est Dieu. Et en fait, je me dis, mais c'est fou. Même cette personne-là, à l'échelle de la société, c'est une personne qui est en réussite. Il n'est avec sa grande voiture, bien habillé, il présente bien, etc. Mais c'est vide. Le monde a soif. Et nous avons quelque chose à lui donner. Donc tournons-nous vers lui parce que c'est tout ce qu'il recherche, nous l'avons. Amen. Deuxième partie. Plus donc... Si vous voulez bien impacter notre région, comment ? Eh bien, en témoignant de notre foi pour être des témoins de proximité au quotidien. La deuxième dimension. Et pour illustrer ça, je propose de prendre Luc 8, du verset 34 au verset 39. On va lire ensemble et puis on revient après. Donc, voyant ce qui s'était passé, les gardiens du troupeau prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme que les démons avaient quitté. Il était assis, habillé et revenu à la raison, aux pieds de Jésus. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur rapportèrent comment le possédé avait été sauvé. Alors toute la population du territoire des Géraséniens demanda à Jésus de partir de chez eux parce qu'ils étaient en proie à une grande crainte. Jésus remonta dans la barque et s'en retourna. L'homme que les démons avaient quitté lui demandait de pouvoir être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Beaucoup de choses à retenir de cette histoire. La première, je pense, c'est que s'il est important de toucher le monde qui nous entoure, et c'est ce que nous avons vu dans la première partie, notamment le monde qui ne connaît pas, Jésus, on voit ici qu'il invite le miraculé à témoigner et il nous invite, nous aussi, à nos proches de ce que nous avons vécu. C'est vrai que souvent, nous voyons le fait de témoigner de notre foi, de le faire aux non-chrétiens, aux gens qui ne connaissent pas, mais on en oublie presque, et Jésus ici est une invitation que notre priorité est presque déjà à la base, c'est déjà de pouvoir être des vrais témoins dans notre cercle proche. C'est super important. C'est la première dimension, presque. Et ici, on voit que c'est le cas, puisque Jésus fait un miracle de global, devant une foule, donc il y a cette notion de généralité, mais il dit après à ceux qui marguent, va le raconter à tes proches ce qui s'est passé. Il doit avoir ces deux dimensions. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre, on ne peut pas occulter l'un sans l'autre. Il faut vivre les deux dimensions. La deuxième chose à retenir, c'est que auprès de ceux qui nous connaissent, notre attitude et nos changements visibles parlent plus que les mots. Souvent, vous savez, on se dit quand on est là qu'on doit témoigner de notre foi, même auprès de notre proche, on dit ouais, « Moi, ce que j'aime pas témoigner de ma foi, c'est que je suis pas à l'aise. Je sais pas quoi dire des fois. » C'est vrai. Je sais pas comment aborder les choses, etc. On en oublierait presque que c'est notre attitude qui va parler plus que les mots. Et on voit que c'est ça dans cette histoire. Finalement, au verset 35, on voit que ce qui impacte les gens, qui étaient présents et qui ont vécu le miracle. C'est pas le miracle en soi, c'est pas quand le démon est sorti, et pourtant, à mon avis, ça devait être assez impressionnant. Il y a dû gémir, vous imaginez un peu, c'est ça qui a dû impacter. Non, ce qui impacte les gens, on voit, c'est que l'homme qui était possédé, il était assis, habillé, revenu à la raison au pied de Jésus. C'est ça qui les fait saisir de crainte. Donc c'est ce changement d'attitude de l'homme qui les impacte, plus que l'acte de miraculeux avant qui s'est passé. Et c'est ce que je vous disais ici, vous, souvent, et nous, d'une façon générale, ce qui va impacter nos proches, c'est dire « Waouh, t'as vu comment il est en changement ? On sent un cœur, qu'est-ce qui se passe chez lui ?» C'est ça qui m'intéresse. Et ça va être ça, votre premier témoignage. Dernier point à retenir, et qui me semble aussi très très important, c'est que nous pouvons croire que souvent que c'est plus simple de témoigner auprès de ceux que l'on connaît. On dit « On les connaît, on est en confiance ». C'est vrai que souvent on se dit à l'extérieur, au pire, si ça se passe pas bien, je le reverrai plus. C'est vrai, souvent on se dit ça. Par contre, si je témoigne et que ça se passe pas bien avec, on peut dire, on peut tout prendre dans tous les sens. Mais souvent, on dit quand même qu'on est plus à l'aise de parler avec Dieu auprès de ceux qu'on connaît aussi, parce que inversement, on dit, bah, comme ils nous aiment, si c'est ma famille, ils vont pas me rejeter pour ça. Mais c'est surtout une plus grande responsabilité. C'est une plus grande responsabilité. On voit ici, Jésus le montre clairement dans son attitude. Il dit, voilà, la personne dit, j'aimerais te suivre Jésus. Et on pense que souvent le plus important, c'est de suivre Jésus. Et Jésus dit, non, attends. Le plus important, c'est que tu ailles témoigner de ce qui se passe à ta famille. Il met ça devant. Ça prouve que c'est une responsabilité folle qu'il lui donne à ce moment-là. Et c'est une responsabilité folle que nous avons. Et vous savez, tout ça me pousse à dire aussi que souvent, et j'aimerais qu'on puisse rendre hommage aussi à ces gens-là ce matin, c'est la matinée des hommages, vous allez dire. Mais à ceux, par exemple, qui s'occupent des enfants à l'éveil, ou ceux qui s'occupent des enfants comme ce que gère Nathan. Pourquoi ? Parce que souvent, en tant que chrétien, on se dit, c'est vrai qu'on va se tourner vers l'extérieur, on va aller témoigner et faire en sorte que les non-chrétiens viennent remplir l'église. Je caricature un peu, mais on en oublie que ce sont nos enfants qui rempliront l'église de demain, avant tout. Et je trouve que ça serait tellement beau, mais triste, de voir beaucoup de monde de l'extérieur venir remplir l'église, mais de voir nos enfants ne pas les venir. Et en ce sens, j'ai envie de dire, quand je dis qu'il y a différents moyens et qu'on a tous notre place à trouver, pour moi, j'en ai pris conscience cette semaine, ceux qui s'occupent des enfants sont les premières personnes qui évangélisent, d'une certaine manière. Même chose, ce matin, rendre hommage aussi aux personnes qui prennent toujours contact, des chrétiens qu'on a perdu de vue. Vous savez, des personnes qui quittent les églises et qui sont dans la nature, mais qui continuent. Parce que, même constat, je trouverais tellement triste de voir, beau mais triste à la fois, des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Christ venir remplir nos églises, mais de savoir que depuis quelques mois, il y a des personnes qui ont quitté et qu'on les laisse partir comme ça. Donc voilà, eux aussi, et ces personnes qui prennent du temps de prendre des nouvelles, eux aussi sont dans une notion d'évangélisation, de témoignage de la foi, et ont un rôle, d'une certaine manière, à trouver dans cette vision impactée notre région. En tout cas, ils y sont dans ce rôle-là. Voilà, troisième partie, on va terminer avec quelques conseils. Parce que vous l'aurez compris, ce matin, notre but, si vous voulez, c'est donc d'impacter notre région. Et donc nous avons tous, malgré ce qui se fait déjà aujourd'hui, peut-être un cap à passer dans nos vies pour vivre cette réalité. Et pour cela, trois conseils, toujours basés par rapport aux histoires qu'on a vues précédemment. La première, c'est que si l'on désire témoigner de notre foi pour impacter notre région, il faut accepter que cela a un prix. C'est dur des fois. Et souvent, c'est ce qui fait peur. Dès qu'on dit, oh là, ça a un prix, oh là, non, c'est bon, j'en ai pas. Bon, un prix financier, on parle bien sûr de ça. Ici, on voit que les disciples, j'imagine, pour aller prendre jusqu'à Chypre, etc., ça devait être onéreux. Bon, ils étaient soutenus par l'Église, bien sûr. Mais ça a un prix aussi différemment. Il faut prendre de notre temps pour le faire. Il faut prendre de notre temps. Et souvent, le plus grand prix aujourd'hui dans notre société, c'est de trouver le temps pour. Et c'est le premier prix à trouver. Mais aussi, ça a un prix dans le sens qu'il faut accepter d'aller et de se prendre des échecs. D'être buté. Et on voit ici Jésus dans son histoire, dans l'histoire que l'on vient de lire. Il a fait un miracle incroyable. Et pourtant, quelle est la réaction des gens ? Va-t'en. On a peur, va-t'en. Il faut aussi accepter des fois que ça fait mal. Mais on rentre dans la réalité de ce que Christ veut. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ça a un prix, mais quand on a quelque chose qui a un prix, Dieu agit derrière. Et il nous redonne en conséquent. La deuxième chose à retenir, c'est que si on désire témoigner de notre foi, pour impacter notre région, j'insiste encore, il faut accepter qu'il n'y aura pas de suite avec certains. C'est vrai. Je pense que dans l'équipe, vous devez dire, ou même par exemple dans les maraudes. J'ai fait une fois la maraude, j'ai beaucoup apprécié. On ne témoigne pas forcément de Christ tout de suite, parce qu'on est guidé par l'amour. C'est pas le but premier. Et peut-être qu'il y a certaines personnes à qui on donne et que jamais ils auront contact avec Christ. Ou peut-être à qui on donne et qui vont prendre et qui vont dire, moi je suis là pour consommer, parce que on peut les comprendre. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas les biens. Mais ne me parlez pas de Jésus. Il faut accepter ça. Il faut accepter que des fois, il n'y a pas de suite. Mais ce qui est semé, est semé. Ce qui est semé, est semé. Vous savez, là, on voit dans les Actes des Apôtres l'exemple. Barnabé, Et Paul, ils sont allés dans la synagogue, ils ont prêché. Est-ce qu'il est noté dans ce texte que des personnes se sont du coup converties à Christ ? Non, peut-être qu'ils l'ont fait et que ça n'a aucun impact. Même dans cette histoire, finalement, on voit qu'ils rencontrent plein de personnes et il n'y a que le proconsul qui a été touché. Oui, mais ce qui est semé, semé. Et même si ça touche qu'une personne, ça vaudra le coup. Amen. Et la deuxième chose, bah pareil, si on prend la personne qui était délivrée du démon, on n'a pas de suite. Moi, je suis triste. J'aimerais bien savoir s'il rentrait à la maison. On voit qu'en plus, avant de rentrer à la maison, il est même passé par la ville pour l'annoncer. On lui a dit « Témoigne chez toi », mais t'es tellement fou qu'il a dit « Je vais raconter à toute la ville ». Mais on ne sait pas s'il s'est impacté. On ne sait pas. Mais ce n'est pas la priorité. Tant que la parole de Dieu est annoncée, après le Seigneur, fait le reste. Et ça va introduire le dernier point. Si on désire témoigner de notre foi pour impacter notre région, il faut que nous acceptions que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et ça, souvent, c'est dur. Ça, souvent, c'est dur. Parce que on a l'impression qu'avec nos propres forces, on va réussir à les convaincre. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et ça, c'est super important. Alors, c'est deux choses. Parce que on voit ici, dans Actes, dans la partie sur l'histoire, sur Barnabé et Paul, que l'homme a été touché, pas par les miracles qui ont été effectués, encore une fois, mais par l'enseignement de la parole. C'est ce qui est noté. Donc, c'est la parole. Même s'il a vu toutes ces choses incroyables qui se sont passées, c'est la parole qui l'a convaincu. La parole de Christ, la Bible. Et c'est ça qui convaincra. Et on voit aussi dans l'histoire de Luc que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, Jésus lui dit « Va annoncer ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'homme, qu'est-ce qu'il a annoncé ? Après, c'est noté. Et l'homme s'en alla et annonça ce que Jésus a fait. Jésus avait tellement d'humilité qu'il a dit « Va et annonce ce que mon Père a fait. » Alors que l'homme, lui, il a retenu juste que c'était Jésus qui avait fait le miracle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, c'est aussi une marque d'humilité. C'est pas facile à accepter. Mais il faut aussi le comprendre parce que, on va pas se mentir, quand quelqu'un vient à l'église que c'est grâce à nous, on se dit « Eh, t'as vu ? C'est grâce à moi qu'il est là. J'ai témoigné et il est là. » Non, c'est aussi une marque d'humilité. C'est Christ qui fait tout. Et tout revient à Christ. Amen.